Bonjour tout le monde, bonjour, la spectaculaire, l'émission commence aujourd'hui, mercredi, le combien sommes-nous, 22 janvier 2014, Christophe Rolin au micro, je suis en excellente compagnie, Gérald est avec nous, quoiqu'il n'est pas encore, il n'a pas encore pris place derrière les micros, de toute façon les micros sont tous coupés, donc on ne peut pas encore entendre les trois membres du collectif BIS qui sont en notre compagnie pour cette émission jusqu'à 15h, ils viennent nous parler de l'objet théâtral, le Stalking, qui est donné au Théâtre des Clochards Céleste, ça a commencé la semaine dernière, le vendredi 17 janvier, c'est donné jusqu'au dimanche 2 février. Nous préciserons les horaires, nous préciserons différentes choses, je crois qu'ils font relâche, me semble-t-il, le lundi. Et ils sont là, donc pour en parler, nous allons commencer tout d'abord par un premier titre musical, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut qualifier la chose. Gérald nous a donné qu'est-ce que c'est de Erwin Schulhoff, c'est la Sona Erotica für Solo Muta Trompete. Nous allons entendre ça pour introduire cette émission. Tout d'abord, le collectif se présentera, puis ensuite ils nous indiqueront plus précisément ce qu'est cet objet théâtral, et en fin d'émission Gérald a quelques brèves à nous donner, et puis peut-être que Chloé, Julien et Thomas qui sont avec nous nous indiqueront différents spectacles à voir ou différentes lectures à faire ou je ne sais. Nous sommes sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien sur internet, écoutez-nous donc Radio Canu toutaccroché.org, et c'est tout. Commun accord entre nous tous, la vie est unanime, c'est très bien, hein, Gérald, c'est très exotique, très érotique plutôt, la Sona Erotica für Solo Muta Trompete, un titre qui date de 1919 et ce qui pourrait carrément refroidir l'atmosphère, donc d'un commun accord nous interrompons ce morceau qui s'était encore parti pour deux minutes, ce qui pourrait refroidir l'atmosphère, c'est Gérald, qu'est-il arrivé à ce compositeur Erwin Schulhoff, disais-tu, je vois comme date de décès 1942.
Ouais. Ben voilà, c'est un compositeur d'avant-garde qui pour les nazis faisait sans doute de l'art dégénéré et qui peut-être aussi était peut-être juif, je sais pas.
Bon, en tout cas, décédé en 42, c'est très bien. On commence avec un petit peu peut-être un petit peu de légèreté, alors que nous, enfin légèreté, je sais pas comment qualifier ça, mais nous verrons que tout à l'heure l'objet théâtral Stalking est assez particulier. Ce n'était peut-être pas cet aspect qu'on pourrait mettre en avant. Bref. Stalking, c'est très bien, mais qui va parler de stalking ? Peut-être pas tout de suite, mais je veux dire, qui sont les personnes qui interviennent dans cet objet théâtral ? J'ai en face de moi Thomas, dans l'ordre, Julien et Chloé. Serions-nous galants ? Laissons-nous Chloé se présenter, dire deux, trois mots, par exemple, dire qu'avec vous deux, les garçons, elle était sur scène de septembre à novembre dernier, au Théâtre du Point du Jour, pour les pièces de Molière qui étaient données par la Théâtre du Troupe, enfin disons, par la Troupe du Théâtre Permanent, enfin, par Gwenaëlle Morin, et vous vous étiez lié à tout ça. Chloé, souhaitez-vous en parler ou parler d'autre chose ? Je vous en prie, indiquez votre patronyme ou je ne sais quoi encore.
Ben, bonjour à tous. En effet, j'ai fait partie de cette aventure au Théâtre du Point du Jour avec Gwenaëlle Morin. Au préalable, quand même, peut-être que c'est intéressant de préciser qu'on sort du Conservatoire de Théâtre de Lyon, où on a fait notre formation ensemble pendant trois années. Trois années où on s'est vraiment rencontrés tous et on est sorti à 12 donc, de cette promotion, et les 12 personnes ont été embauchées voilà, au Théâtre du Point du Jour pour ces trois Molières, donc successivement Don Juan, Tartuffe et puis le Misanthrope. Et voilà, on était tous ensemble pour cette aventure-là. Et la suite pour nous, c'est donc voilà, en ce moment donc, les représentations au Théâtre des Clochards Célestes. Voilà, pour Stalking, une création qu'on a faite avec le collectif BIS, le collectif donc, qu'on a créé, nous, toute notre promotion, en sortant du Conservatoire de Lyon. Voilà, je laisse la parole à Julien, qui est vraiment un membre très actif de ce collectif.
Bonjour, Julien Michel, donc. J'ai aussi fait partie de l'aventure de Gwenaël Morin. Et Chloé a assez bien parlé de l'affaire. Moi, je vais vous parler un petit peu plus du collectif BIS, puisqu'elle l'a dit, je suis un membre actif. Ce collectif a été créé pendant les années d'études, avec des gens qui gravitaient autour de notre promotion et autour de nos envies de théâtre. Et suivant, en fait, une envie de créer à plusieurs et de pas partir sur une seule envie artistique, une seule idée artistique avec un porteur, par exemple le classique d'avoir une compagnie, la compagnie par exemple la compagnie Gwenaël Morin. Ça veut bien dire que c'est Gwenaël Morin qui porte artistiquement le propos, qui porte artistiquement le sujet, toute sa vie en fait est tournée autour de ce projet-là, et des gens le suivent, comme ce qui a pu se passer avec le théâtre, par exemple le Théâtre du Soleil à Paris, avec Arène Mouchkine. Là, le collectif BIS, c'est plutôt un regroupement de personnes qui ont envie de travailler ensemble, mais qui n'ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes désirs, et de théâtre et d'audiovisuel, donc parce qu'on a aussi fait un film, mais une forte envie de bosser ensemble dans toutes les directions possibles. Et donc ce collectif est comme une espèce de structure pouvant accueillir ces projets, puisque aujourd'hui, pour faire du théâtre, on est obligé aussi de se structurer, d'avoir des charges assez lourdes au niveau administratif, une force de travail qui n'est pas forcément située dans l'artistique. Et donc c'était de pouvoir se regrouper pour être plus fort, quoi, pour être plus fort. Voilà. Peut-être que Thomas va continuer de prendre la parole. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est que pour le projet de Stalking, donc qui est représenté en ce moment, j'ai mis en scène ce projet, j'ai initié ce projet, puisque le thème vient de moi, le thème sociologique du Stalking, mais on en parlera un peu plus tard.
Et vous ne jouez pas.
Et non, donc du coup là je ne joue pas dans cette pièce. Donc c'est vrai que je suis plutôt porté à faire de la mise en scène.
Avant de céder la parole à Thomas, moi j'ai seulement ce commentaire à faire, qui est que nous ne pouvons doublement, je dirais volontiers, dans l'émission spectaculaire et puis à Radio Canu, nous ne pouvons qu'être sensibles à ces propos que vous tenez sur cette idée de collectif, à savoir, je ne sais pas comment dire ça, aucune personnalité forcément mise en avant, ou disons, si ça arrive dans un spectacle, ça n'est pas le cas peut-être dans l'autre, à l'instant où vous venez de dire, Julien Michel, que c'est vous qui avez eu cette idée et qui mettez en scène, mais vous ne jouez pas dedans. Donc paradoxalement, c'est peut-être vous qu'on voit le moins. Donc, enfin, des têtes voilà, qui peuvent parfois apparaître, et pourquoi je dis ça? Parce que spectaculaire, générique du début d'émission, Massive Attack, et j'aime bien ce terme-là, Massive Attack, est un collectif avec tout un tas de musiciens qui gravitent, certains qui sont de manière permanente, plus ou moins, d'autres qui viennent, qui vont et qui même se font virer. Ça évolue. Là, actuellement, je ne sais plus très bien où en sont Massive Attack, mais il me semble qu'il y a toujours la figure de Robert Del Naja, mais Tricky est parti, a fait sa carrière, Mushroom, je crois, est parti également, et Grand Daddy, je ne sais plus très bien, je crois qu'il est revenu, lui. Donc voilà une idée de choses qui évoluent avec pas forcément de tête mise en avant, et puis surtout à Radio Canu, je crois que, ouais, il y a un président, mais à part ça, il y a des assemblées générales surtout, des conseils des émissions, et c'est vraiment cette idée de collectif. Il n'y a pas de, personne qui peut être plus importante qu'une autre, je ne sais. Alors peut-être dis-je n'importe quoi, parce que l'émission spectaculaire n'a commencé à Radio Canu, ça ne fait pas encore un an, on a commencé que depuis quelques mois, mais quand même, je tenais à ce que la chose soit dite. Thomas, à vous la parole, vous êtes la troisième personne présente ici de ce collectif BIS. Il était question d'en avoir 4, 5, 18, mais... Bon, pour différentes raisons, vous n'êtes que trois présents. Gérald est également là, mais Gérald, lui, non, il appartient à l'équipe de spectaculaire. Thomas, à vous la parole.
Bonjour à tous.
Je prendrai la parole plus tard.
Ouais. Oui, effectivement, Stalking, que puis-je dire,
c'est un... Attends, le spectacle même, que plutôt vous-même, Thomas, qui
moi-même.
Êtes-vous
Ah bah, moi, je suis je suis comédien, sorti du conservatoire avec mes camarades, en fin d'année dernière. Je suis, comment dirais-je, membre actif du collectif BIS.
Oui, donc Thomas a participé à plusieurs projets, voilà, c'est ça, principalement en tant que comédien.
C'est ça. Voilà, je Que dire d'autre
Mais, par exemple, pourriez-vous répondre peut-être à cette question très naïve que je me pose? Moi, je pensais de manière confuse que ENSAT et conservatoire, oserais-je l'avouer, je pensais que c'était plus ou moins la même chose, alors que, disons, ça peut être la même chose, mais en fait, ce sont quand même des entités séparées. Concrètement, les adresses, je crois, l'ENSAT, c'est vers le Théâtre du Point du Jour, pas très loin, alors que le conservatoire, c'est plutôt...
Le Vieux-Lyon,
c'est ouais, ça. Et donc, ce sont vraiment des choses différentes.
Ce sont des choses différentes.
Il
n'y
a pas les mêmes professeurs, ce ne sont
pas... Non, il n'y a pas... Alors, évidemment, on parle bien de la même chose, parle de théâtre.
L'enseignement, voilà.
Voilà. Après, en ce qui concerne l'ENSAT, c'est une école supérieure. Donc, c'est un. On y rentre sur audition, comme conservatoire. C'est les temps de. Comment dirais-je? Les stages à l'ENSAT sont plus longs qu'au conservatoire. Nous, on avait des stages de maximum 2 ou 3 semaines. Les élèves de l'ENSAT, je parle en théâtre, hein, parce que il y a énormément de corps de métier qui gravitent autour du théâtre à l'ENSAT. Et nous, au conservatoire, on a des stages beaucoup plus courts, parce que la volonté du directeur qui est Philippe Cyr, n'est en aucun cas de devenir une école supérieure, mais de fournir un enseignement suffisant pour pouvoir accéder éventuellement aux écoles supérieures, dont l'ENSAT.
C'est-à-dire que vous pourriez maintenant entrer à l'ENSAT, ou il n'y a pas une question d'âge non plus, ou de...
Il y a une limite d'âge.
Vas-y. Oui, en fait, en gros, il y a des limites d'âge dans toutes ces écoles supérieures. Il y en a 11 au total en France. Et puis, après ces écoles supérieures, il y a des conservatoires régionaux, dont le conservatoire de Lyon, donc, qui en fait partie. Mais c'est comme des espèces de classes différentes d'études, avec des difficultés totalement différentes pour pouvoir y entrer. Il y a beaucoup plus de monde qui se présente à l'ENSAT, parce que les moyens, ils sont énormes, en fait. Ils sont beaucoup plus grands.
Juste une petite question, quel est le statut de l'école de la Comédie de Saint-Étienne?
C'est une école supérieure.
Okay. C'est une école supérieure aussi. Ouais.
Ouais. Et du coup, aussi la grosse différence, c'est que le conservatoire n'a pas vocation à former des comédiens, quoi. C'est-à-dire que le conservatoire, c'est une multitude de prise en main et donner aux gens en fait le démarrage en quelque part un démarrage pour que ensuite ils puissent eux-mêmes se débrouiller soit à devenir professionnels soit à entrer dans des écoles qui elles sont un peu des patentes de la garantie d'avoir du taf quoi je mets des grands guillemets hein, mais en gros c'est un petit peu comme ça que ça se passe d'après moi maintenant alors que l'ENSAT
en tout cas
vraiment,
dans la tête des gens.
Mais dans la tête des gens, et puis même au niveau des politiques, etc., l'argent est vraiment mis à l'ENSAT pour mettre en avant des talents qui auront été choisis et qui seront du coup garants de la qualité théâtrale française, quoi.
Avec le CNC à la clé.
Avec le CNC
à la clé, dans le meilleur des cas.
Ouais, dans le meilleur des cas, exact.
Et j'ai sous les yeux, moi je l'aime bien, ce texte rédigé par le collectif BIS pour se présenter. Le collectif BIS est un regroupement de créateurs diplômés du Conservatoire de Lyon, ainsi que de l'ENSAT, nous venons d'en parler, l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers du Théâtre, et aussi de l'ENSBA, l'École Nationale des Beaux-Arts de Lyon. Et surtout, ce qui m'intéresse davantage, c'est la suite, que nous soyons scénographes, acteurs, metteurs en scène, techniciens, plasticiens ou dramaturges. Notre objectif est de nous réunir le plus souvent possible afin de créer autour d'improvisation, de thèmes, d'idées, de textes et de questionner le monde de la manière la plus fantastique qu'il soit et avec les moyens qui sont les nôtres. Julien, c'est vous l'auteur de ce texte ou c'est parce que je vois la mise en scène, donc c'est vous Julien, je vois la scénographie, au dessin il y a Alice Minier, au son on pourrait dire qu'il y a également vous, toujours Alice et Thomas, est-ce bien vous le Thomas qui est au son aussi?
Tout à fait.
Et puis il y a à la lumière Rosamonde, Nicolas aussi à la lumière, et enfin pour le jeu, Chloé qui est avec nous ici, Lucas qui est donc absent, et Thomas vous-même, donc c'est bien, vous êtes... plusieurs casquettes, plusieurs...
Alors chacun aussi en fonction de ses envies, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de mettre en scène, ou envie de faire de la lumière, envie de faire du son, ça participe forcément, hein. Mais Par rapport au texte, donc l'écriture a été collective et on est quatre à être vraiment impliqués pour la construction de la structure. Donc là, je suis le seul des quatre à être présent aujourd'hui. Et donc ce texte typiquement a été écrit à quatre mains. Maintenant, c'est vrai que chaque projet a plus ou moins d'importance, est plus ou moins gros, a plus ou moins d'aide, etc. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de dire qu'aujourd'hui, les compagnies de théâtre n'ont pas forcément les moyens, la place, l'espace pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir bosser, quoi. Et c'est le plus cruel, on va dire, c'est d'arriver après avoir s'être donné dans des formations, avoir tout tenté en gros dans ces formations, de sortir d'une formation, avoir été encadré, mais alors d'une manière tout à fait délicate, super, génial, etc. Et d'arriver dehors et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, que tout est déjà pris quelque part. Il y a énormément d'aide en France, hein. Je veux dire, on a beaucoup de chance par rapport à ça, par rapport à la culture, mais tout est saturé. Il y a pas de place pour si nous on travaille, c'est qu'on prend quelque part, on prend la place de quelqu'un d'autre. C'est certain. Je veux dire, ça c'est une chose, c'est typique.
Comme donc il y a des monopoles, hein.
Voilà.
Voilà. Après, moi, je tiens quand même à ajouter que le Conservatoire de Lyon, pour le coup, la formation qu'on a reçue, c'est quand même une formation qui nous a appris aussi à nous débrouiller et où on a fait beaucoup de projets par nous-mêmes avec des moyens, des fois même très, très restreints, en fait. Et on a été vraiment formés à être non seulement acteurs, mais aussi créateurs, donc acteurs-créateurs. Donc avec une formation qui, du coup, nous a donné la possibilité de faire à la fois de la mise en scène, à la fois du jeu, à la fois du son, à la fois de la vidéo. Enfin, voilà, on a été vraiment...
Libre.
Ouais, initié en tout cas à tous ces corps de métier qui gravitent autour du théâtre.
Et les équipes, j'y pense donc, sont variables. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Julien, vous avez parlé de projets. J'ai sous les yeux différents titres. Et ils vécurent heureux, Lys. Il y a quelque chose qui bat, là, ainsi que Quack et puis Phèdre. Ce sont donc différents projets antérieurs, c'est ça? Ce ne sont pas encore des projets à venir?
Non, c'est que des projets antérieurs donc qu'on a créés auparavant, qu'on a déjà présentés.
Dans lesquels vous avez pu par exemple jouer, c'est ça Julien?
Oui, typiquement.
Tout le temps la mise en scène.
Voilà, donc en mai dernier au Théâtre de l'Élysée pour Élevé Curtereux, mis en scène par Michael Comte. Donc là, il y avait une vingtaine de personnes sur le projet, une vingtaine de comédiens en deux parties, avec une partie d'abord avec trois comédiens dont Thomas faisait partie, et puis après une espèce de gros chœur qui terminait en beauté le spectacle, si on peut dire. Mais du coup là par exemple j'étais en effet, je faisais partie des acteurs.
Donc ce collectif, je crois l'avoir entendu au tout début, Chloé, vous disiez 12 personnes, c'est ça? Et enfin,
plus.
Disons même, ça peut varier.
Même plus.
Non, en fait, 12, c'est la base des, quelque part des comédiens, puisque tous les comédiens de ce projet, de ce projet de collectif, viennent du Conservatoire de Lyon, pour l'instant. En gros, par exemple, les métiers de la lumière, les métiers du son, les métiers de la scénographie, c'est des gens qui viennent de l'extérieur quelque part. Et puis c'est aussi des envies propres, puisque on a tous nos affinités. Moi, par exemple, je travaille avec Alice Minier, qui m'aide pas que la scénographie, mais à penser des choses un petit peu différentes, puisqu'elle vient d'un métier de plasticienne, qu'elle a fait donc à l'École des Beaux-Arts de Lyon, et qu'elle m'ouvre à d'autres perspectives, puisque je suis vraiment théâtral, comme ma formation est théâtrale, et on peut vraiment dire que je suis un théâtreux dans ce sens-là, et j'ai besoin d'ouverture, et donc c'est vraiment à Alice à qui je fais appel pour pouvoir m'ouvrir, par exemple.
Eh bien, très bien, je crois que nous avons bien présenté ce collectif BIS. J'ai déjà indiqué sur le blog de Spectaculaire que le collectif pour cet objet théâtral Stalking serait présent aujourd'hui. Et donc, j'ai déjà renvoyé au lien, puisqu'il y a un site internet collectifbis.fr, je crois. Il y a même une adresse électronique à tout un tas de choses. Donc, vous pourrez trouver tous ces renseignements. Et je crois que maintenant, il va être temps de parler de cet objet théâtral plus précisément. Qu'est-ce que c'est que ce Stalking? Merci Gérald, qui est en train de faire le pitre, certes, mais merci Gérald qui a apporté, comme très souvent, qui assure la programmation musicale. Nous allons écouter à présent, sait-on jamais, où va une femme quand elle vous quitte? Et Je pense que c'est assez génial. Enfin, moi, d'après ce que j'ai cru comprendre, je ne suis pas encore allé voir le spectacle, mais d'après ce que j'ai lu et d'après ce que j'ai cru comprendre, je crois que ce titre correspondrait bien à l'esprit de cet objet théâtral. Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte ?
On avait le choix avec
avec autre chose encore.
Ne me quitte pas de Brel, mais j'avouerais que j'ai honte, mais je l'ai pas dans ma discothèque.
Bon, mais c'est plus ça. De Serge Gainsbourg, donc interprété par Jane Birkin. Nous écoutons ce titre, et ensuite nous parlons plus précisément dans l'émission spectaculaire à 14h et quoi, une vingtaine de minutes. Sur le 102.2 de la bande FM à Lyon et sur radiocanu.org, nous allons donc dans quelques instants parler plus précisément de cet objet théâtral donné au Théâtre des Clochards Célestes. Ça a commencé le 17 janvier, ça se termine le 2 février, il y a encore du temps, mais allez donc voir ce que c'est et puis surtout écoutez de quoi il s'agit.
Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? Où elle s'en va quand elle s'en va? Qui sait? Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? Moi je le sais, toi tu es parti à jamais. Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? Tu es mon seul amour, et ce je crois pour la vie. Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? Qu'importe là ou ailleurs, les verrous sont mis. Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? Qui disait cela? C'est ce que tu n'as jamais su. Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? Moi je le sais, c'est au cours de son procès lent en rue.
Eh bien, nous reprenons. C'est Gérald qui est super attentif, incroyable, il a la bonne oreille. Nous reprenons, nous écoutions à l'instant Jane Birkin, mais ça n'est pas elle qui chantait, hein, il me semble.
Non, c'était Serge Gainsbourg qui chantait dans les tout premiers albums de Serge Gainsbourg, les meilleurs d'ailleurs, guitare jazz, album jazz, où il y a les classiques. Et donc, sait-on jamais où une femme quand elle vous quitte?
Voilà.
Pour introduire ce spectacle au thème.
Objet théâtral. Attention, Gérald. Soyons précis avec les mots. Objet théâtral. Julien, donc à vous la parole. Julien qui est à la mise en scène pour cette version de l'équipe du collectif BIS qui donne ces jours-ci Stoking au Théâtre des Clochards Célestes. Pendant, c'est bien, c'est une quinzaine de dates, je suppose, ça va faire 15.
Oui, on a 15 dates en affaire. Ouais. Et donc, du coup,
Qu'est-ce que c'est le stalking?
Alors, le stalking, c'est un mot donc anglophone qui nous vient des années 80, quand les stars se faisaient harceler puisqu'elles n'avaient pas de vie privée, mais bien une vie publique par les magazines genre Closer, qu'on connaît bien aujourd'hui, par exemple.
Depuis deux semaines, ouais.
Ouais, exactement. Avant, on en a jamais entendu parler, enfin, moi en tout cas. Mais du coup, ces stars donc pouvaient se faire harceler puisqu'on pouvait les suivre de partout, tout le temps. Elles étaient exposées un maximum. Et donc, des amours obsessionnels ou simplement des gens qui étaient obsessionnels ont pu les traquer de manière furtive puisqu'ils n'avaient pas besoin d'être physiquement présents sur les lieux puisque d'autres le faisaient à leur place, c'est-à-dire la presse. Et donc, elles pouvaient se faire traquer, ces stars, jusqu'à des cas critiques d'assassinats. Enfin bref, ce qu'on imagine, quoi. Et là, avec l'arrivée des nouvelles technologies qui a bouleversé le quotidien de tout un chacun, quelque part, nous expose aux vies des autres, puisque nos vies, à nous, ne sont plus plus si privé que ça. On sait sur Internet ce qu'on fait dans notre moi virtuel. Et ce moi virtuel qui est incontrôlable et qui existe partout. Géographiquement, puisque par exemple aujourd'hui là je suis à la radio, je suis en face d'un micro, mais par contre Julien Michel sur Internet est là tout le temps et partout et accessible, et j'ai pas besoin de les gens n'ont pas besoin d'être autour de moi pour pouvoir quelque part m'atteindre.
Il y avait cette phrase dans la note d'intention, l'accès de chacun aux vies privées de tous. Je me suis dit qu'on pouvait même peut-être faire une sorte de renversement, l'accès de tous aux vies privées de chacun. Je vous en prie, je vous interromps, Julien.
Oui.
Donc, stalking, un phénomène qui a commencé années 60, années 70
80. Années 80 avec les stars, et puis petit à petit, ça s'est développé. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a le mois du stalking, le mois de janvier, qui donc est destiné à cette cause-là, pour la défendre, pour en faire l'information. Et on considère qu'une femme sur six est victime de stalking aux États-Unis.
Pardon ? Pas d'hommes.
Alors, les hommes sont aussi victimes, mais beaucoup moins. Pour le coup, alors ça touche forcément aussi les hommes. On peut pas dire que c'est uniquement une chose féminine, mais bon, c'est la majorité des cas, ça reste des voilà, exact. Et donc le stalking. Moi, je voulais travailler sur ce projet-là parce que j'étais au contact de quelqu'un qui s'est fait harceler, et j'ai vu l'ampleur des dégâts que ça pouvait faire, et aussi de l'incompréhension, parce que moi je ne comprenais pas du tout ce qui pouvait se passer. La victime avait des attaques invisibles en fait. Donc on pouvait pas nommer cette chose-là, on pouvait pas réagir. Et donc je me suis dit qu'il fallait le faire connaître, il fallait travailler dessus, il fallait faire quelque chose. Et comme je faisais du théâtre et que j'avais envie de mettre en scène, c'était le moyen idéal de le faire. Et puis quand j'ai commencé à chercher un petit peu autour de moi des textes qui parlaient du sujet, il y a 2 ans et demi, il y avait absolument rien. Rien du côté du théâtre et rien du côté de la sociologie moderne. Bref, c'était le néant total. Donc l'idéal, c'était de créer en improvisation, sur base d'improvisation, avec une équipe, un spectacle, donc de toutes pièces, avec une trame principale qui permettrait de suivre comme ça l'évolution d'une histoire concrète.
Une seule histoire, voilà. Mm-hmm. Un garçon, une femme, c'est là qu'intervient Cléo, c'est ça, ou c'est...
Jeanne, alors c'est Jeanne, on l'a nommée Jeanne, interprétée par Chloé, donc c'est peut-être Cléo.
Donc ça, c'est la trame principale, mm-hmm. C'est-à-dire que du début à la fin, il y a ce fil, enfin je ne sais comment nommer ça, et à côté de cela, il y a autre chose, Julien ?
Oui, il y a des micro-fictions, donc en fait c'était notre moyen à nous pour assez rapidement pas parler que du principe de couple, du principe, c'est-à-dire là, le principe de base, c'est après une rupture, l'homme refuse la séparation et donc essaye par tous les moyens de revenir en contact, de perpétrer le stalking, de perpétrer le harcèlement. Et l'idée là, c'était de voir les autres accès à ce thème-là, les autres possibilités, avec des petites histoires de 2 à 3 minutes. Et donc pour ça, moi je vous propose, c'est qu'on en écoute une. Comme ça, vu qu'on est à la radio, c'est un bon moyen. Et donc je laisse la parole à un des deux comédiens qui va se lancer.
Parce que les micro-fictions se font seules ou elles se font encore à deux ?
Alors là, c'est seul en fait. Le comédien vient en fait face publique et vient raconter comme ça une petite histoire. Soit c'est une anecdote, soit c'est un personnage qui vient raconter un bout de vie, quoi. Donc voilà, je crois que...
Ah mais c'est fastoche pour vous, hein, Julien, de lancer Thomas
et
Chloé,
oui.
Parce que vous mettez en scène, vous ne jouez pas.
Absolument.
Donc voilà, Thomas a tombé le pull pour être plus à l'aise. Est-ce lui qui va commencer ou Chloé ? Je vous laisse. Nous sommes donc toujours dans Spectaculaire et puis Magie. Nous sommes en fait ce soir, c'est ça, au Clochard Céleste. 20h ou 20h30 le début des spectacles ?
Alors 20h, sauf le jeudi qui est un jour off, le dimanche où on joue à 17h et le lundi où on joue à 19h.
Ah ouais, mince, j'ai dit relâche le lundi. Non, pas du tout, c'est relâche le jeudi. Donc là, nous sommes mercredi, nous avons un peu d'avance. Il n'est plus 14h30, il est en fait 20h. Le spectacle a commencé avec la première trame, le premier couple, Jeanne, vous disiez, et puis...
Jeanne est le stalker.
Jeanne est le stalker.
Qui est non nommé.
Et là, maintenant, micro-fiction.
Étant enfant, j'allais beaucoup en vacances chez mes grands-parents. Et chez mes grands-parents, il y avait une chose que j'aimais énormément, c'était leur téléphone fixe. C'était un vieux téléphone fixe comme ceux qui reviennent à la mode maintenant, avec un cadran circulaire pour composer le, le numéro, un gros combiné téléphonique pour parler et pour écouter, et derrière, un espèce de petit combiné uniquement pour écouter. Et moi, ce que je faisais, dès que le téléphone sonnait, je me précipitais sur ce téléphone et je décrochais ce petit combiné qui servait uniquement à écouter, et j'écoutais toutes les conversations de mes grands-parents. Parce que j'aimais beaucoup apprendre des détails insignifiants de la vie des gens, comme ce qu'ils ont mangé, quelle maladie ils ont eu, quelle journée ils ont passé. Et j'adorais faire ça tout en sachant que eux ne pouvaient absolument pas m'entendre. J'étais complètement incognito. Et un jour, comme d'habitude, le téléphone sonne. Je décroche ce petit combiné. Mais une chose avait changé. Il y avait comme une espèce de présence en plus, un souffle qui faisait... Alors là, je me suis mis à imaginer des tas de choses différentes. Je me suis dit qu'on était peut-être espionnés par les extraterrestres, par nos voisins, par nos proches. Je me suis mis à me méfier de ce souffle-là. Et puis les années ont passé, ce téléphone a disparu, les vacances avec mes grands-parents aussi. Et j'ai pas eu de téléphone portable durant mon adolescence. Le premier téléphone que j'ai eu, c'était pour mon premier emploi. J'en avais besoin pour joindre mes clients. Et je me suis pas rendu compte immédiatement de la chose, mais un jour j'appelle un de mes clients, ça sonne, il décroche. Je ne parle pas. Des années après, le souffle était revenu. Alors, j'avais beau ne plus être enfant, je me suis imaginé tout un tas de choses. Je me suis dit que je faisais partie peut-être d'un programme d'espionnage du gouvernement français, russe, américain, que sais-je. Alors, je me suis mis à crypter mes conversations téléphoniques pour garder le plus d'intimité possible. Je me suis mis à reparler la langue du feu, comme on parle, c'est une langue qu'on parle quand on est plus ou moins enfant, par exemple, Kofo m'enfant va fatufu. Je me suis mis à parler des différents gromelots, et même avec certains camarades informaticiens, je me suis mis à parler en langage binaire. Je ne parlais qu'avec des zéros ou des 1, ce qui était complètement incompréhensible, personne ne me comprenait. Et un jour j'appelle ma grande-tante. J'appelle une de mes grandes-tantes en fait. C'était son anniversaire, alors ça sonne, elle décroche, bonjour, joyeux anniversaire, comment vas-tu? Elle commence à prendre de mes nouvelles, donc je commence à lui dire 2-3 choses sur moi, mais toujours de manière succincte, pour donner le moins de détails possible à ce souffle. Et à un moment, je m'arrête et j'apprécie le silence. Le vrai silence. Le souffle avait disparu. Alors là, je me mets à comme libéré d'une chose que je ne contrôlais pas, je me mets à lui parler de moi avec des tas de petits détails que j'avais jamais dit à personne. Et je raccroche, et je me dis, c'est trop bête, il faut absolument que je prévienne mon meilleur ami que j'avais bassiné pendant des années avec cette histoire de souffle abracadabrante. Je l'appelle, ça sonne, il décroche. Le souffle était revenu. Sans rien dire, je raccroche immédiatement. Et je me mets à avoir un doute. Je me mets à avoir un doute, alors je rappelle ma grande tante. Ça sonne. Elle décroche. Je ne dis pas un mot. Le souffle avait de nouveau disparu.
Ouais, Gérald, c'est ça?
C'est fantastique cette histoire.
En termes de radio, c'est prodigieux. Le souffle, ça passait super bien. Je ne sais pas comment sur scène ça peut marcher, mais moi, là, avec un casque de Mickey sur les oreilles, j'entendais vachement ce souffle. Wow, donc ça, ça intervient pendant ce spectacle Stalking. C'est une sorte, comment appeler ça, Thomas ou Julien, une sorte de variation ou
c'est une sorte. Nous, on a appelé ça des micro-fictions parce qu'on, étant donné qu'on est parti au travail là-dessus, on part d'éléments qui sont à la base vraisemblables, qu'on va transformer pour raconter une histoire plus ou moins crédible. Pardon, quelle était votre question?
Pour le coup, c'était super crédible. C'est une sorte, j'emploie ce terme de variante, on serait dans la tête plutôt de la fille, c'est ça? C'est plutôt une sorte de perception où c'est pas le stalker, ça? Si, c'est.
Justement, c'est tout l'intérêt de ces micro-fictions-là, c'est que c'est ni elle, ni lui. Ça peut être n'importe qui vient raconter ces petites histoires qui tournent autour du thème.
Voilà, en fait. On coupe vraiment avec l'action. La trame principale au plateau, on la coupe
concrètement. Il y a une musique, il y a quelque chose, ou c'est concrètement, je veux dire, ça marche comment?
Alors il y a une musique, il y a une bascule lumière, et on passe vraiment dans un autre univers, même au niveau du plateau. En fait, ça se passe pas, au centre plateau. En fait, c'est excentré.
Dans un espace bien défini. Ce que je peux surtout dire, c'est qu'il y a le quatrième mur. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le quatrième mur. C'est, en gros, les comédiens ne s'adressent pas au public. Il n'y a pas de contact visuel avec le public. Les comédiens sont dans des situations pendant la trame principale. Et au moment de la micro-fiction, on casse le quatrième mur. Et en fait, les comédiens viennent s'adresser directement au public. Donc, c'est une adresse totalement différente. C'est vraiment plus les mêmes personnages, puisqu'ils n'ont plus les mêmes corps.
Bien sûr, mais c'est toujours, Thomas l'a dit à l'instant, c'est toujours le même thème tout de même.
Oui, tout à fait, ça gravit toujours du même thème, bien sûr.
Et avec des anecdotes plus intimes d'un coup, de gens qui sont même des réflexions qu'on pourrait avoir nous dans notre vie de tous les jours. C'est quelque chose de plus accessible, peut-être, que la trame principale, qui pour le coup est vraiment une histoire de A à Z avec un début et une fin. Voilà.
Et dans un acteur complètement différent.
Voilà. Le rapport au jeu et à la langue est beaucoup plus presque cinématographique, parce que on est dans un langage
direct,
très très parlé, avec des élisions, des
texte écrit ou pas, c'est une grande question que je me posais.
Non.
Il y a une trame écrite tout de même, c'est ça? Par exemple, ce que vous avez dit à l'instant, est-ce qu'on pourrait entendre la même chose ce soir ou demain soir? Demain, jeudi, relâche.
Jeudi
23 janvier, relâche, mais vendredi 24, est-ce que ce serait. Enfin, ou disons, la même chose avec peut-être un souffle différent à un moment ou un mot de vocabulaire différent?
Voilà, c'est ça. En fait, étant donné qu'on a. Que ces micro-fictions, on les a travaillées uniquement en improvisation, en fait, on les a écrites à force de le faire.
Mais il y a un support qui existe quand même quelque part, oui?
Le support qu'on peut avoir, c'est un support de film, c'est-à-dire qu'en fait on a filmé des représentations et ça nous permet, si jamais par exemple l'année prochaine on reprend le projet, on a un film qui permet de réécouter la chose, de la revoir, de repartir d'une base. Mais en effet, on n'a pas comme ce qu'on pourrait appeler une conduite avec le texte écrit, quoi.
Voilà. Et nous, on a simplement en fait un canevas. Ce qu'on appelle un canevas, c'est vraiment un parcours avec des points de rendez-vous qu'on se donne avec nous-mêmes, des points de rendez-vous par lesquels on sait qu'on doit passer. Mm-hmm. Et là-dedans, après, on est très très libre, en effet, de changer un mot pour un autre, même au niveau de l'intensité.
Et pour tout le spectacle, la trame principale et les micro-fictions.
Oui.
Alors, à part une ou deux scènes, il y a vraiment une seule scène qui a été écrite, apprise de manière classique. Oui, hormis cette scène-là, tout le reste, même ce qu'on a pu écrire après pour avoir simplement une base,
pour voir quelque chose,
ça reste une base. Ce qu'il y a de bien dans ce spectacle, c'est en tant qu'acteur, on se sent libre de selon l'état du soir, etc., de rajouter, d'enlever, de passer par autre chose. Voilà.
C'est une forme d'improvisation et qui est le propre aussi des musiciens de jazz qui improvisent sur des grilles, avoir fait un standard.
Tout à fait.
Et qui partent ne sais où et eux ne le savent pas encore avant de le faire.
Exactement.
Et cette improvisation rejoint le théâtre aussi.
Voilà.
Et
voilà.
La vie et le direct.
Voilà, exactement.
Hier soir, on était plutôt en do. Et ce soir, peut-être, ce sera plutôt en ré.
Donc, aucune publication.
Mineur.
Pas de publication envisageable. C'est un spectacle, objet théâtral, disiez-vous, et il n'y a pas de texte à vérifier. Ce sont des expériences de vécu. Alors, peut-être une question facile à poser. C'est toujours cette idée, je ne sais pas comment nommer ça, de l'incarnation ou le rapport du comédien avec son personnage. Quel est-il alors? Puisque là, pour le coup, ce n'est pas un texte écrit avec une trame. Enfin, disons, il y a une trame à respecter, mais ce n'est pas quelque chose auquel il faut se montrer fidèle et voire servile. Donc il peut y avoir de soi qui passe, ou au contraire, on fait bien la différence. Et, tiens, je vais imaginer que mon personnage va avoir un tic ou le hockey ou je sais pas quoi, ou davantage développer telle chose. Ça marche comment? Si il y a quand même un petit peu de soi qui passe, vous avez été en vacances chez vos grands-parents, oui. Thomas,
en plus, oui, c'est un. C'est vrai que ce téléphone, c'est un vrai souvenir d'enfance. Ouais, alors
oui,
après,
on connaît tout ça.
Jamais, voilà.
On connaît tous, on est beaucoup à connaître ça.
Exactement, voilà.
L'espionnage, mais par la petite.
En même temps, il faut le prendre, je crois, parce que sinon, il y a un clic, je sais pas. Que Chloé, vous vouliez intervenir, je crois.
Oui, aussi. Ben non, mais je pense que de toute façon, comme on a été lancé à partir d'un thème, donc par Julien, ça va de. C'était des thèmes, voilà, proposés où nous, après, à partir de ce thème-là, on est parti en improvisation. Ça partait de nous, ça part de notre imaginaire. Donc forcément, qu'on fait avec ce qu'on est et avec ce qu'on a en nous pour raconter ces histoires-là. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de déplacer ça et de l'amener à un endroit de jeu intéressant comment expliquer si c'est simplement nous, ça, c'est pas, il y a pas de, enfin, ce qui est intéressant, c'est de décaler les choses en fait et de déplacer l'endroit de parole de quelques petits centimètres.
Et alors, il me semble qu'il faut que nous abordions cette chose. J'y étais sensible dans la présentation, ce document de presse, ce dossier de presse. Cette idée que vous mettez en avant, notre travail est d'explorer la notion de dérive, non pas de l'expliquer au spectateur. Il ne s'agit pas de la comprendre, mais de la voir et de la ressentir. Donc, c'est, je ne sais pas comment appeler cette dimension, une dimension fantastique, disiez-vous, dans la note... la présentation du collectif BIS. Mmh. C'est quoi? Est-ce une crainte de ne pas paraître morale, de ne pas dire, voilà, ça c'est mal, ça c'est bien? Est-ce au contraire, peut-être pas une crainte, mais une sorte d'impossibilité? Qui faut-il plaindre? Qui faut-il...
Oui, et puis le problème, c'est que la victime, elle est très vite nommée. On sait qui est la victime dans l'histoire. Maintenant, c'était de voir comment se comportait l'autre, en fait, le stalker. Du coup, la trame principale est vraiment accentuée sur lui, principalement.
Est-ce qu'on peut sentir qu'il y a une condamnation tout de même? Ou disons...
Non, il n'y a pas de condamnation. C'est plutôt... En fait, on voit des situations de ce mec qui harcèle son ex-femme. Et on le voit de manière totalement différente, le harceler sur Internet, le harceler dans ses rêves, le harceler, bref, de toutes les manières possibles. Mais en fait, c'est loin de moi l'idée, par exemple, de montrer la victime qui n'arrive pas à s'en sortir avec la justice, parce que c'est le cas pour le stalking en général, ni le fait que on donne une espèce de leçon par rapport à ce phénomène, parce que je sais pas, mais moi j'aime les théâtres documentaires, j'ai toujours un petit peu de peine avec le théâtre documentaire, avec le théâtre engagé qui transpire un petit peu l'engagement. C'est très compliqué en fait à traiter et à faire.
Qui est la victime, qui est le bourreau? Le bourreau est victime de sa folie, si je comprends bien.
Oui, voilà. Tout à fait.
Aussi, ouais. Parce qu'en
alors,
plus,
à partir de quel degré la culpabilité. Mm-hmm.
Et le stalker est finalement un personnage même assez attachant par moment, et très humain et très simple.
C'était pour le montrer attachant et très simple qu'il est comme ça dans la pièce, mais c'est pour moi c'est un masque, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité propre, qui a comme ça plusieurs personnalités dont il se défausse au bon moment, et c'est un manipulateur.
Oui, un pervers manipulateur.
Oui, voilà. Après, il fait ça de manière consciente ou inconsciente. On est
on n'a pas créé ce spectacle effectivement pour donner une sentence sur ces comportements-là. Nous, on veut juste
c'est un prétexte à faire du théâtre.
Voilà, c'est un
Et du coup d'en parler, puisque quelque part on montre quelque chose qui j'espère est assez fort et qui peut renvoyer à des expériences vécues.
Qui peut même être assez dur, quoi. Voilà, parce que c'est une réalité. Moi, je pense, votre thème m'a fait tout de suite penser à toutes ces femmes battues qui essaient.
Exactement.
Il n'y a pas de centre assez d'hébergement en France. Il est question d'en créer, etc.
Exactement.
Quoi. C'est une réalité sociale, politique actuelle. Mmh. C'est terrible.
Mmh. Voilà. Et puis nous, on en parle sans forcément dire des chiffres, dire. Mmh.
Et en parlez-vous directement avec le public? J'ai sous les yeux la page du site des Clochards Célestes sur justement cet objet théâtral Stalking. Il est indiqué les samedis 18 janvier, ça s'est passé, mais les 25 également, enfin le samedi 25 janvier, puis même le samedi 1er février, entre 10h et 17h, il est question d'ateliers de théâtre en lien avec Stalking. Durant une journée, Julien Michel vous invite à travailler sur les micro-fictions du spectacle, atelier gratuit sur inscription, je crois qu'il y a un numéro de téléphone qui se trouve, j'indiquerai tout ça sur le blog. Donc en parlez-vous ou là non, c'est plutôt du travail qui est fait. Il n'y a pas vraiment de table ronde ou de. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, ou de...
Alors, vu qu'on a. L'objectif de ce moment-là, c'est de partager un moment avec des spectateurs qui auraient participé, puisqu'ils auraient vu le spectacle. Et donc, il y a forcément un travail qui est fait en improvisation sur la base du thème. Donc, travailler avec eux pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire en improvisation sur ce type de sujet-là. Donc, là, il y a un intérêt qui m'est propre aussi, simplement de rencontrer des gens, de travailler avec eux. Et puis, forcément, il y a un espace d'échange qui se crée, mais sans forcément le nommer ou sans forcément l'indiquer. On se pose des questions, on discute, on débat. Ça se fait naturellement, en fait. Maintenant, le samedi dernier, il n'y avait personne, mais parce que aussi, forcément, il fallait avoir vu la pièce et qu'on
avait
joué.
Elle avait commencé
joué.
La veille. Ouais.
Exact. Voilà. Donc, je serais plus à même d'en parler la semaine prochaine. Mais hier soir, on a eu un petit débat avec quatre spectateurs, du coup, avec qui on a parlé du sujet, parlé de la pièce. C'était un échange qui était très important et qui nous a permis aussi, nous, de simplement connaître vraiment l'interprétation des gens, puisqu'il y a des moments, des séquences qui sont très ouvertes, qui permettent au spectateur de se faire son idée sur certaines choses, de comprendre à sa manière certains passages, et que nous, on n'a pas plaqué, en fait. On n'a pas... Le sens est fort, mais on l'a laissé ouvert.
Vous l'avez dit, je vous ai surpris, je vous ai pris en flagrant délit, vous avez nommé ce spectacle, vous avez dit pièce, moi d'ailleurs je viens de dire spectacle, non, oui. Objet théâtral, moi cette idée me plaît vraiment, ça n'est pas de l'ironie ou de la moquerie ou je ne sais quoi de ma part, la question que nous avons, les points que nous avons abordés tout à l'heure, ce texte, moi je suis assez attentif justement au texte, là je parlais de publication, moi j'ai peut-être une sorte de côté maniaque, mince, faudrait que je passe en analyse ou je ne sais, j'aime bien cette idée de pouvoir lire un spectacle ou pouvoir préparer quelque chose et là non, ça n'existe pas, c'est quelque chose qui passe en improvisation, microfiction, qui peut être travaillé donc dans le cadre d'ateliers, en fait tous les samedis jusqu'à la dernière date, jusqu'au dimanche 2 février, donc ça sera la veille, le samedi 1er février, il est possible donc de parler de ce spectacle qui, à défaut de le voir, par vidéo peut-être, quoique non, les vidéos c'est vous qui les avez.
Mais puis en plus
pas le connaître.
Non, et puis je pense que le théâtre, il faut le vivre.
On a entendu Thomas, oui, il faut le vivre, il faut s'y rendre. On n'a pas tout dit, mais je propose quand même de faire une petite pause, et à Gérald qui souhaitait évoquer un petit peu Joseph Cornell. Petite pause musicale. L'amour en cage de Boris Vian, c'est très bien. Là, les trois titres que nous avons écoutés auront été liés à ce spectacle. Premier titre, on peut revenir dessus légèrement. C'était éventuellement dans la tête du stalker. Donc, que s'imagine-t-il sur ce que fait la femme qui l'a quitté, où est-elle? Donc, on a entendu en début d'émission la Sonata Erotica, et je tiens à le redire que ce Erwin Schulhoff est mort déporté, gazé, c'est ça, ou en camp de concentration en 1942. Donc voilà, ça pouvait sembler je sais pas pourquoi j'ai envie de dire léger. En fait, non, pas du tout, parce que tout d'abord, la matière même, c'était quand même pas très léger. C'était carrément, on peut.
Et puis il a écrit des quintettes et tout un
des quintettes érotiques, donc c'était des.
Non, c'est vraiment une exception. Dans
autre chose, voilà. Donc des gémissements
de musical, musique de chambre, même pas, enfin mélodique, avec des expériences très rythmées.
En début d'émission, je reviens.
Très grave et dramatique, c'est magnifique.
Alors que nous, en début d'émission, c'était les gémissements d'une Mutter Trompette, d'une femme qui était cette femme. C'était, je n'ai pas son nom ici. Donc bref, la tête du stall. Nous étions encore dans sa tête avec le titre de Gainsbourg tout à l'heure. Où va la femme? Où va, sait-on jamais, où va une femme quand elle vous quitte? Et là maintenant, l'amour en cage, ce serait peut-être...
Chanté par Hélène Cizaruc, je crois, sur une compile en hommage à Boris Vian.
Moi, j'avais dit que c'était...
Qui a été chanté par Magali Noël.
J'avais dit que c'était Jane Birkin que nous écoutions tout à l'heure. Jane Birkin, on l'a aussi ici, mais non, on ne l'écoutera pas. C'est pas Van pour une infante défunte, une prochaine fois.
Peut-être là, plutôt autre chose, un poème
peut-être.
Anglais qui chante.
Et donc là, pour l'instant, L'amour en cage, interprétation de Marie-Thérèse Orin.
Une chanson... Je me suis trompé, c'est sur un autre.
Voilà, une chanson de Boris Vian. Et puis, on va arriver en fin d'émission. Je ne sais pas si Pascal est encore arrivé pour le blues des canuts. Écoutons notre titre. Je tente de ne pas faire d'impair ici. Non, allez, c'est bien cette chanson sur une compilation. C'est quoi ça? Boris Vian, chanté par tout un tas de chanteurs.
EPM, excellente maison d'édition.
On écoute. Nous sommes toujours sur l'émission spectaculaire, toujours sur Radio Canu, 102.2 de la bande FM à Lyon ou le radiocanu.org.
Mon cœur s'est pris à tes épaules, mon cœur s'est pris à tes yeux gris, le soleil s'est éteint et la neige est tombée, j'ai si froid sans mon cœur, rends-le-moi. Si froid sans mon cœur, rends-le-moi, ne le mets pas dans une cage, il va mourir comme l'amour, laisse-moi courir les rues, laisse-moi vivre au fil des jours. J'ai mis le bonheur à la porte et j'ai brisé tous ses anneaux. J'ai laissé les baisers, j'ai cassé les serments et j'enferme mon cœur avec moi. Demain, je serai libre dans le silence de ma vie. Me prendre à le hasard m'aimera. Et j'enferme mon cœur avec moi. Je serai libre dans ma cage. Je serai libre avec mon cœur. Et j'irai courir les rues de rêve. Où vont mes amours?
La performance, le théâtre.
L'amour en cage, performance, théâtre. Il nous reste encore quelques minutes pour parler de performance et de théâtre. Gérald, disais-tu à l'instant, avec l'équipe du collectif BIS, venu présenter ce spectacle, cet objet théâtral, non pas pièce, ni spectacle, ni quoi que ce soit, ce n'est pas non plus un opéra, c'est un objet théâtral, donc Stalking, qui a commencé le vendredi 17 janvier, qui continue jusqu'au dimanche 2 février, avec des horaires que Julien nous a précisé tout à l'heure, c'est toute la semaine à 20h, sauf le jeudi, c'est ça, à relâche, le jeudi, et puis, est-ce que je l'ai sous les yeux, le lundi, c'est à 19h,
tout à fait.
Et le dimanche à 17h.
Oui, et je rajoute du coup qu'encore jusqu'à samedi, on est sous le coup des balises théâtre, donc une place gratuite pour une place achetée, et c'est sur le site balise.com, balisetheatre.com je crois.
Je mettrai tous les liens sur le blog de Spectaculaire. Je dis à chaque fois que je vais donner l'adresse du blog Spectaculaire, de toute façon on la trouve l'adresse quand on va sur le site de Radio Canu, et sinon je ne l'ai jamais sous les yeux, je la trouve, promis, je la trouve et je la donne d'ici la fin d'émission. Chloé, Thomas, Julien, Gérald, un autre mot à dire, une je sais pas, une brève, une chronique, je ne sais ou...
Mais rapide alors, peut-être des petites annonces rapides.
Volontiers. Ou restons sur Stalking,
oui,
si vous avez encore
si
un élément
voulez.
À dire, enfin
oui,
on peut.
Non, c'est très rapide.
Faisons les brèves, il faut.
On pourrait trouver des points communs peut-être, avec les surréalistes et Joseph Cornel.
Alors, enfin...
Les boîtes paranoïaques, est-ce qu'ils étaient paranoïaques ces artistes? On peut se demander. On peut poser la question pour faire des collages parfois.
Tu es allé voir cette exposition qui se termine le 10 février au Musée des Beaux-Arts, qui s'intitule, je crois qu'elle a un long titre, Joseph Cornell
et les surréalistes à New York, Dali, Duchamp, Ernst, Man Ray, mais aussi Bucaille. La liste des artistes est très très longue. Lee Miller, des photographies magnifiques de Lee Miller. En fait, il y a tout dans cette exposition. J'ai coché quelques pièces qui m'avaient plu, mais c'est tellement riche, des œuvres d'André Breton, de Dali, de Calder, de Tanguy, de Magritte, enfin voilà, des classiques. Pas toujours des chefs-d'œuvre, hein, bien sûr, ouais, mais des œuvres à voir en vrai. Et ce qui est intéressant, il y a un rez-de-chaussée, donc plus dévolu, on va dire. On commence avec l'introduction des photos de Lee Miller, des portraits de toute cette bande-là, on va appeler ça une bande, de laquelle d'ailleurs Cornell s'était un peu détaché, il aimait pas trop qu'on le taxe de surréaliste. Bon voilà, Cornell, c'est les boîtes, des boîtes poétiques, des improvisations plastiques, des boîtes qui peuvent bouger, qui sont ludiques. Il y a tout un tas de périodes différentes dans son travail. Il y a un cinéaste expérimental qui récupérait des bandes pour recomposer ses films. Bon, il a touché un petit peu à tout. C'est un artiste singulier, intéressant, qui est majeur dans le XXe siècle, et on s'en aperçoit en allant découvrir cette exposition.
Je ne sais pas si c'est totalement lié à ce que nous nous sommes dit tantôt, là, il y a quelques instants hors antenne. Nous nous disions que, je crois que nous étions d'accord, une captation vidéo, que ce soit pour du théâtre, de l'opéra ou je ne sais, ça n'est pas le spectacle même. Et donc là, Gérald, est-ce cela que tu es en train de nous dire, à savoir, aller voir cette exposition, c'est pas pareil que retrouver ces collages de Duchamp, Ernst et je ne sais, de les retrouver sur Internet ou dans des...
C'est clair, ça n'a rien à voir, d'autant plus qu'il y a, oui, il y a des grandes peintures de Ernst aussi. Voilà, il y a aussi des images d'ailleurs, puisqu'il y a des films, des projections, mais c'est très équilibré. Il y a Duchamp, les fameuses boîtes en valise, éditées à peu d'exemplaires, il y en a 5, je crois, une vingtaine, il avait fait 2 éditions. Plusieurs. La boîte verte, il a aussi.
Tu dis fameuses parce qu'elles sont connues, c'est ça?
Bah, elles sont partout dans les grands musées du monde. C'était un multiple où Duchamp s'était amusé à reconstituer l'intégralité de toutes ses œuvres en miniature. Enfin, c'est un délire Duchamp. Il y a un bouquin qui vient de sortir d'ailleurs. Paraît-il, est passionnant et il faut le lire.
Et donc voir cela
sur un délire sur Duchamp et une explication.
Et donc voir
l'œuvre de Duchamp.
Voir cette exposition, c'est bien, ça vaut le coup.
C'est très bien. Et en plus, c'est pas trop long parce que c'est vrai qu'on peut saturer. Ça peut être. Et puis on découvre des choses. Il y a des croquis de danse. Il y a les néo-romantiques aussi. Il y a des allusions au ballet russe. Voilà, c'est vraiment varié. Des objets, l'image en mouvement, c'est regroupé par thématique.
Durée, moi je pense
le
encore.
Le film collage, le rapport entre Cornell et Duchamp, parce qu'il faut savoir quand même que Cornell était l'assistant une période de sa vie des boîtes de Duchamp. Il l'était, c'était un spécialiste des boîtes. Voilà.
Durée,
donc, toute une période de l'art très intéressante, et on voit qu'aujourd'hui la boîte elle est partout. La boîte, c'est un classique, tout le monde aime faire les boîtes. Il a porté au niveau art contemporain universel le thème de la boîte à un haut niveau, sachant qu'on avait tous été enfants, collectionné nos premiers trésors dans des petites boîtes à biscuits, oui, parce qu'on avait trouvé un caillou joli et tout ça. Voilà, ça puise dans tout cet imaginaire, ça remue tout ça avec beaucoup de plaisir et de bonheur.
Super.
Durée, moi je repense encore à ça. Stalking, il est indiqué sur le site, durée 1 heure et dès 14 ans. Dès 14 ans, ça peut être important cette idée que non, c'est pas limité puisque ça peut sembler un problème d'adulte. Non, c'est pas forcément pour des personnes qui ont vécu en couple la vingtaine, trentaine, quarantaine ou cinquantaine. Non, les ados peuvent également être sensibilisés à ce thème du stalker qui bien vient sûr harceler.
Mais, notamment parce que de plus en plus les jeunes. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, mais non. Absolument pas. Les plus jeunes mettent beaucoup de
leur vie.
De leur vie privée sur Internet, les sites, les réseaux sociaux, et que ça peut.
Donc si
ça peut être dangereux, quoi.
Moi j'y tenais, il y a quand même une sorte de jugement moral. Attention les jeunes, ce n'est pas bien. Non, je déconne, je plaisante.
Dans le spectacle, non. Mais nous, oui, non, c'est aussi notre rôle de.
Pour le coup, ça tombe sous le bon sens, quoi, effectivement. Faites attention, quoi. Ne mettez pas n'importe quoi sur Internet. Vous le disiez tout à fait justement au début d'émission, Julien. Vous êtes avec nous en direct maintenant, mais on peut aller sur Internet, trouver peut-être une photo de vous ou je ne sais quoi. Et des choses, oui, qui éventuellement ne s'y trouveront, et que certes à une époque vous souhaitiez peut-être que ça s'y trouve, mais maintenant non, et ben ça s'y trouvera quand même. Voilà. Vous êtes bien puni, bien attrapé.
Ouais, à vie et jusqu'à la fin de mes jours.
Moi j'avais une toute petite brève affaire, il y a l'opéra Cœur de Chien qui est annoncé un peu partout sur des affiches à Lyon, on voit effectivement un chien, quelle race est-ce, une sorte de Doberman je crois, ouais, qui est assez effrayant, ouais. Opéra de Alexander Raskatov, un compositeur russe qui en fait vit à Paris depuis pas loin de 10 ans, pas encore complètement, c'est assez particulier, assez spécial, je crois que c'est une œuvre géniale pour ce qui est de la réalisation de la qualité, mais après le propos c'est un peu étrange, une sorte de condamnation de l'URSS, ouais forcément c'était pas très très bien tout ce qu'ont fait les soviétiques, mais c'est un peu
bizarre, puis je ne sais pas si c'est encore contemporain de nous dire ça maintenant. Enfin, mais l'opéra, techniquement, il y a une voix de contre-ténor qui est magnifique. Il y a tout un tas de choses. Le ténor qui joue le rôle du chien, puisque l'idée, ce n'est pas vraiment du stalking, c'est un chien qui devient homme parce qu'on lui a greffé des testicules ainsi qu'une partie du cerveau. Et donc ce chien s'humanise et il devient ben, non pas une tête de chien, mais plutôt une tête de nœud. Et le chanteur qui joue le rôle, c'est prodigieux. Même lors des saluts, il se grattait encore les fesses. C'est une belle incarnation. Donc voilà, le plateau est magnifique. Il y a beaucoup d'effets. C'est très très beau, très très bien. C'est un petit peu long, peut-être. Il y a un entracte d'une demi-heure. Donc ça fait. On en a pour 3 heures de spectacle. C'est peut-être bien, hein, des expos qui durent 1 heure ou des spectacles qui, par exemple, sur les pentes de la Croix-Rouge, là, vers le théâtre des Clochards Célestes. Si ça peut durer 1 heure, ça peut être très bien aussi. La musique est assez décoiffante. Mais voilà, je suis partagé. J'en reparlerai davantage sur le site éventuellement. Je l'ai sous les yeux, le blog de l'émission spectaculaire. Adresse blog au pluriel, blogs.radiocanu.org, tout accroché, /spectaculaire. Et puis après, vous accéderez à tout un tas de choses. Nous avons peut-être débordé. Chloé, une annonce. De toute façon, Pascal, pour le bus des Canus, n'est pas là. Alors on déborde, tant pis.
Toute petite dernière brève dans le prolongement donc, du triptyque Molière. Se suit donc au théâtre du Point du Jour, se suivent donc trois pièces de Shakespeare
dans l'ordre.
Donc en ce moment même,
Macbeth, c'est ça,
et à venir Othello, voilà.
Et ensuite le Roi Lear, qui est en parallèle au TNP ces temps-ci jusqu'au 15 février avec Serge Merlin dans le rôle titre.
Oui.
J'ai pu contacter ces jours-ci un des acteurs de la troupe, Olivier Borle, que nous recevions Gérald en octobre dernier, qui me disait que ils font relâche 2 jours par semaine parce que me confiait-il, je crois pouvoir le dire, Serge Merlin est une personne avec un certain âge et jouer 7 jours d'affilée serait pas vraiment possible, 6 jours non plus, donc ils font relâche les mardis, mercredis peut-être, je crois. Oui, je crois que c'est ça.
D'autant que sa partition est visiblement très physique.
Ouais, c'est assez costaud, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai pour l'instant eu des échos très favorables.
Il y a, d'ailleurs, dans ce spectacle, il y a Philippe Cyr, le directeur du conservatoire, qui joue, je ne sais plus quel rôle, mais qui joue un noble anglais, et Magali Bona, qui est une professeure au conservatoire. Voilà.
Le conservatoire est un collectif. Je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps de réécouter notre splendide générique. Et voilà, c'est Massive Attack pour dire au revoir à tout le monde. Au revoir Gérald, au revoir Thomas, au revoir Julien, au revoir Chloé.
Au revoir.
De nous avoir parlé du spectacle Stalking qui est encore jusqu'au dimanche 2 février au Théâtre des Clochards Célestes. Tout se trouve sur le blog Radio Canu Spectaculaire. Vous tapez ça sur un moteur de recherche et vous devriez trouver. Nous nous retrouvons mercredi 29 janvier avec je sais plus qui. Surprise, qui sera notre invité? Peut-être pas d'invité, nous verrons ce qu'il en est. Gérald, qu'est-ce que t'as en train de
dire?
Ce sera la 22e émission. Il y tient. Merci beaucoup tout le monde, à la semaine prochaine.
Merci, au revoir.